Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
La crise anglophone au Cameroun, les origines. À ceux qui expliquaient que le Cameroun était un état un peu bizarre dans la mesure où son histoire récente est assez particulière, ça n'est pas le seul pays qui ait connu cette évolution, le Togo a été dans le même cas, mais beaucoup répondaient que cette question de région anglophone, francophone, c'est du passé, c'est terminé, le pays est une république unie, tout roule très bien et il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Or, la grande affaire, c'est que à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, la région de l'Ouest, donc issue des partages de la Première Guerre mondiale, qui est devenue partie intégrante de cette République du Cameroun unie, cette région a connu des violences assez rares dans l'histoire du pays. Ces violences ont été interprétées de manière multiple. Certains ont fait une lecture politique, plutôt politicienne, de ces violences pour en tirer profit pour eux individuellement ou pour le parti qu'ils représentent. D'autres se sont émus à juste titre et nous recevons aujourd'hui au micro de Mémoire d'un continent un intellectuel, un professeur d'université, Bobda Pierre Kamé. Bonjour.
Bonjour Monsieur Mokolo.
Au lendemain de cette violence, de cette crise, vous vous êtes mis à utiliser les réseaux sociaux, notamment le réseau WhatsApp avec vos amis. Donc la crise a lieu violemment le 22 septembre 2017. Le lendemain, vous écrivez à vos amis pour dire que c'est grave, on ne peut pas rester les bras croisés, il y a un devoir de réflexion et un devoir d'action, en citant notamment une formule de Voltaire dans un livre d'histoire. Voltaire était philosophe et en même temps historien, donc un livre consacré au roi Charles IX de Suède, où il dit ceci: les plus grandes calamités de l'histoire n'ont guère été que l'œuvre de célèbres ignorants. Donc pour combattre cette ignorance, vous avez dans la foulée écrit un livre, La crise anglophone au Cameroun, livre qui a été publié presque immédiatement aux éditions L'Harmattan. Bon, alors cette crise, vous l'analysez étant économiste de formation, disons votre métier aujourd'hui c'est d'enseigner l'économie à l'université de Valenciennes, vous l'écrivez avec les outils de l'historien, du philosophe, du juriste et aussi avec un talent pour argumenter et convaincre. C'est quoi ce livre? C'est un plaidoyer pour l'action? C'est une tentative d'explication?
Ben c'est comme dirait un enseignant camerounais que j'aime bien qui s'appelle Charlie Gabriel Bock, le propre d'un livre, c'est de livrer. Et je crois que c'est véritablement à cela que répond ce livre. Comme vous l'avez dit, j'avais réagi en fait à un événement qui m'attristait beaucoup, parce que cette crise a commencé un an, disons au mois d'octobre 2016, et les choses empiraient. Et c'est comme ça que j'ai réagi en évoquant ce que me disait souvent mon père quand on discutait d'histoire et de politique, en rappelant ce que disait Voltaire. Mais il me le disait souvent pour dire qu'en réalité, les plus grandes calamités auraient pu être évitées, parce que c'est souvent l'œuvre de personnes ignorantes. Et il m'avait semblé que dans la gestion de cette crise, beaucoup de choses tenaient à l'ignorance. Et j'ai donc voulu très vite rendre compte de ce que je croyais être les origines profondes de cette crise. Et il faut remonter à l'histoire de ce pays pour comprendre la genèse de ce conflit. Et il faut au moins remonter jusqu'à un fait colonial qui est la partition de ce pays au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Parce que c'est vrai que les auditeurs oublient que l'Afrique centrale a été un enjeu de lutte très importante entre les impérialismes. On parle souvent de l'Angleterre et de la France, en oubliant que l'Allemagne a en quelque sorte jeté son dévolu sur l'Afrique centrale, qui irait en gros du Tanganyika, qui était leur colonie, jusque vers l'ouest. On arrive justement au Cameroun et au Congo. Et bien avant la guerre, enfin un peu de temps avant la guerre, à la suite d'une crise survenue au Maroc en 1911, l'Allemagne avait obtenu donc, comment dire, le Cameroun, oui, et commençait à faire arriver de cette jonction entre l'Atlantique et l'océan Indien.
Tout à fait.
Arrive
tout
donc la guerre, c'est là que vous entrez en scène.
Je rentre en scène pour dire qu'en réalité, cette partition administrative qui donc survient après la Première Guerre mondiale a duré une quarantaine d'années. C'est une partition qui a été répartie entre la France et la Grande-Bretagne et disons de 1916 jusqu'à l'indépendance du Cameroun, c'est tout de même une quarantaine d'années d'administration pour partie française et pour partie anglaise. Et je considère que 40 années d'administration, ça a imprimé la langue, bien entendu, mais ça a aussi imprimé des mœurs sociopolitiques. Et à l'indépendance du Cameroun, au sortir en quelque sorte de cette période où le Cameroun était en fait divisé en deux territoires internationaux, au sortir de cette période-là, eh bien, le Cameroun, la réalité camerounaise, c'était qu'il y avait un territoire qu'on peut considérer comme un territoire anglophone, pas seulement par la langue, mais aussi par les mœurs sociopolitiques, et un territoire francophone. Et les modalités de la levée de la tutelle internationale sur ces deux territoires ont été différentes, et cela s'est fait aussi en deux moments différents. Et donc, les acteurs sur ces deux territoires-là ont considéré, parce qu'ils ont vécu une réalité propre à eux, ont toujours revendiqué l'unité nationale, c'était un rêve, même dans l'entre-deux-guerres, il y a eu de part et d'autre des organisations qui revendiquaient la nécessité de réunir ces deux territoires et de dépasser cette séparation artificielle, mais qui
quand même
imprimait
oui,
des réalités différentes.
Des réalités absolument voilà. Juridiques, sociales, économiques.
Tout à fait. De sorte que l'exigence de la réunification du Cameroun, quand les dirigeants politiques, à la levée de la tutelle, ont considéré qu'il fallait réunir ce qui avait été injustement séparé, ils ont quand même admis que c'était deux réalités différentes et qu'il fallait respecter et assumer. Et c'est pour cette raison que, après la levée de la tutelle des Nations Unies sur ces deux territoires, l'une s'est faite par l'indépendance, c'est le Cameroun francophone, c'est-à-dire que les Nations Unies ont considéré que sur ce territoire, qui était le plus grand et le plus peuplé, la levée de la tutelle s'est faite par l'indépendance du Cameroun. Et c'était donc la République du Cameroun qui est indépendante le 1er janvier 1960. Un an après, en 1961, la levée de la tutelle sur le territoire qui était administré par le Royaume-Uni s'est faite selon d'autres modalités. On ne leur a pas offert la possibilité de devenir un second pays camerounais indépendant, mais on leur a offert la possibilité soit de se rejoindre au Cameroun qui était indépendant d'ores et déjà, soit de rejoindre le Nigeria. Une partie du Cameroun, le Cameroun septentrional, a choisi d'aller au Nigeria et le Cameroun méridional a choisi de rejoindre le Cameroun administré par la France, qui était indépendante depuis le 1er janvier 1960.
Alors, la question qui est là, c'est que le Cameroun, c'est aussi particulier, puisque cette partie devenue mandat britannique a été coupée en deux.
Tout à
Alors
fait.
Que l'autre cas que l'on connaît au Togo, qui a été aussi coupé en
Tout
deux,
à fait.
Pour les mêmes raisons, entre
oui.
les mêmes partenaires, oui. la partie, disons, britannique a choisi, par référendum,
oui.
de rallier le Ghana indépendant de Kwame Nkrumah.
Tout à fait.
Alors, vous dites que ça a eu un impact important. Donc, c'était des mandats qui n'étaient pas tout à fait des colonies. Peut-être qu'il
oui.
faut expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un mandat et ce que c'est qu'une colonie.
Alors, c'est, en fait, au courant de la Première Guerre mondiale, l'un des premiers objectifs des membres de ce qu'on appelait la Triple Entente était de conquérir les territoires coloniaux allemands en Afrique. C'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne et la France s'agissant du Cameroun. Mais pas seulement du Cameroun, mais en particulier du Cameroun. Ce qui fait qu'à partir de 1916, le Cameroun était un territoire qui était de fait occupé par des troupes africaines, mais sous commandement britannique.
Oui, des troupes africaines.
C'était des troupes africaines, mais sous commandement britannique, c'était le général Charles Nobel, et français, c'était le général Emmerich. Donc, au sortir de la guerre, ils ont voulu faire de ces territoires, dont les anciennes possessions coloniales allemandes, ils ont voulu en faire des colonies. Au traité de paix, ce qui a été retenu, c'est que ces territoires devenaient des territoires internationaux et qu'il fallait que les membres, dans son pacte, la Société des Nations, qui a été créée par ce traité de paix, s'est investi d'une mission en quelque sorte civilisatrice et c'était une innovation en matière de droit international. Et on a donc la France et la Grande-Bretagne qui occupaient déjà ces territoires, ont candidaté pour administrer ces territoires et c'est comme ça qu'en réalité, la Grande-Bretagne a administré la partie du territoire camerounais qu'elle occupait en ralliant ce territoire à sa colonie du Nigeria. Et selon encore deux procédés, parce que la partie du nord, le Cameroun septentrional, a quasiment été intégrée à la région du Bornou, qui est dont la capitale est Maïdougouri au Nigeria, alors que la partie méridionale a été administrée comme une région autonome. Donc c'est tout à fait naturel que en 1960, lorsque le référendum est fait, la partie septentrionale qui était déjà largement intégrée à la région du nord du Nigeria a choisi de se rallier au Nigeria, alors que la partie méridionale, qui a été toujours un peu autonome, a décidé de se rallier au Cameroun. Et pour accueillir le Cameroun méridional, l'accord avec les dirigeants du Cameroun francophone était de respecter les personnalités différentes et donc de modéliser en quelque sorte la réunification dans le cadre d'un État fédéral à deux États fédérés, avec un État fédéré francophone et un État fédéré anglophone.
Alors là, ça, c'est le produit de cette longue évolution, mais il serait bon de rappeler à chacun que la volonté d'indépendance, et dans ce cas, la volonté d'union, est née dans le cœur et dans la tête des Camerounais. C'est pas quelque chose qui est venu de la Société des Nations ou de l'Organisation des Nations Unies, c'est devenu du corps même des Camerounais, comme le montre un texte que vous citez dans votre livre, texte qui date du 9 mai 1937, c'est une pétition, parce que les sujets ou les citoyens des mandats avaient le droit d'envoyer des pétitions, à qui de droit, une pétition donc rédigée par l'Union Camerounaise, un mouvement encore peu connu, me semble-t-il.
Trop peu connu. Vocation politique. Oui. Et qui était un mouvement qui était toléré, en quelque sorte, mais qui était à Paris, qui s'appelait l'Union Camerounaise, et qui était dirigé par des ressortissants du littoral, Mandé Sibel. Et donc, ils ont pétitionné, en quelque sorte, à la société, au conseil des mandats, à la commission des mandats à Genève, réclamant, en quelque sorte, le changement de statut du Cameroun, qui était un mandat B, un régime de mandat B, en régime de mandat A, et exigeant qu'à l'occasion, le Cameroun soit réuni et que sa vocation à l'indépendance soit reconnue. Et c'était déjà, en quelque sorte, l'expression du nationalisme camerounais qui sera, de façon beaucoup plus emblématique, assumée et exprimée par l'Union des populations du Cameroun, mais après la Seconde Guerre mondiale.
Depuis plus de 20 ans, les puissances mandataires au Cameroun appliquent à ce pays le système d'administration dénommé mandat B, qui implique le statut colonial. Or, ce statut est essentiellement caractérisé par le fait que toutes les responsabilités, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, sont assumées par la puissance mandataire. Les arguments que nous faisons valoir pour l'octroi du mandat A au Cameroun résultent de ces deux remarques et sont les suivants. Au point de vue matériel, les puissances mandataires ont eu 20 ans de délai pour former des éléments indigènes en état de prendre un certain nombre de responsabilités, ce qui est d'autant plus suffisant qu'elles n'avaient pas affaire à des populations manquant totalement d'expérience ou d'instruction. Il nous apparaît donc possible et légitime de commencer à remettre au peuple camerounais certains leviers de commande. La différence très sensible existant entre les principes d'administration coloniale anglais et français conduirait, si le mandat B se perpétuait, les deux parties du Cameroun, qui sont constituées des mêmes clans et collectivités, à évoluer dans des sens différents. Cela constituerait un douloureux écartèlement du pays, dont les deux fractions tendraient ainsi à s'éloigner l'une de l'autre. En résumé, le développement politique, les intérêts et la dignité des populations du Cameroun exigent que, conformément aux vœux de ces populations et à l'esprit du mandat, le Cameroun soit doté, sans plus attendre, du mandat A, seul susceptible de l'acheminer vers cette indépendance nationale à laquelle il aspire et seul capable de sauver ce pays des maux qui l'accablent.
Oui, mandat A, mandat B, lorsqu'on discutait de ces questions juridiques, un certain nombre de, aujourd'hui on dirait d'Africains américains qui étaient présents à Paris, étaient scandalisés de voir que à des territoires issus de la décomposition de l'Empire d'Autriche-Hongrie, on reconnaissait le statut de mandat A, donc une très large autonomie. On disait donc comment. C'est entre autres Dubois qui expliquait comment peut-on considérer la Hongrie comme un État et ne pas reconnaître que les Haoussa, par exemple, ou des États, le royaume Bamoun au Cameroun, constituaient aussi des États qui avaient droit à un traitement autre que le traitement B, qui était assez proche quand même d'un statut de colonie. Hein.
Tout à fait, oui. tout à fait. C'était une réalité coloniale. Et donc, ils ont réclamé cela, et c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, dont l'ONU, la Société des Nations a fait la place à l'ONU, et là, la vocation à l'indépendance des territoires qui sont des territoires sous tutelle était explicitement affirmé dans la charte des Nations Unies.
Est-ce que le contrôle de l'ONU sur la gestion des territoires sous tutelle n'était pas plus ferme plus...
Parce qu'il
y avait déjà des anciennes colonies qui étaient devenues des États indépendants, l'Inde que vous citez notamment.
Tout à fait. On a modifié le dispositif de contrôle en le renforçant, puisqu'on a instauré les missions de visite qui devaient se faire tous les 3 ans. On a modifié les modalités de pétition avec une plus grande liberté pour les ressortissants des territoires. On a modifié aussi le statut des habitants des territoires sous tutelle, le régime foncier. On a imposé un certain nombre d'obligations aux puissances administrantes qui indiquaient bien qu'on préparait en quelque sorte ces territoires-là à l'indépendance-là. Dans la charte de San Francisco, il est bien dit que les pays qui administrent ces territoires doivent préparer ces populations à l'indépendance politique.
Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, Oumniobé a eu le privilège ou le droit d'aller à la tribune des Nations Unies pour expliquer
à trois reprises
une volonté d'indépendance indiscutable dans le pays.
Il a porté, on peut considérer que c'est l'icône du nationalisme camerounais, durant 3 années, en 1952, en 1953, en 1954, il est allé à la commission, à la 4e commission, qui était la commission des tutelles aux Nations Unies pour, dans une large mesure, accuser en quelque sorte de la gestion de la responsabilité qu'on avait confiée à la France. Il considérait que la France n'assumait pas totalement la mission qui lui était confiée, qui était en fait de préparer ce territoire à l'indépendance, d'avancer sur tel sujet, notamment les libertés politiques, la réunification des deux Cameroun. Il considérait que la France traînait les pieds, et donc je pense que c'est ce qui a valu l'ostracisme qu'a subi ce parti durant cette période.
Et peut-être plus tard, mais nous y reviendrons dans une prochaine émission. Merci à vous, le professeur Pierre Camé Bouopda, d'être venu au micro de Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoul.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe risque de toute grève.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.